7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, apprendre au 21e siècle. Nous allons prendre du recul sur ce que tout le monde constate finalement au quotidien quand des élèves vérifient sur leur smartphone ce que dit le prof ou quand ils apprennent à réfléchir en regardant des vidéos et que l'intelligence artificielle est en passe de dépasser le cerveau humain. Quelles sont les compétences utiles pour notre monde ? Que des choses qui ne sont pas enseignées à l'heure actuelle. C'est ce que nous dit François Taddeï, qui est dans le studio aujourd'hui. Bonjour François Taddeï.
Bonjour.
Vous êtes biologiste et directeur de recherche à l'INSERM. Vous avez créé le Centre de recherche interdisciplinaire à Paris, le CRI. Et on vous reçoit chez 7 milliards de voisins parce que vous publiez « Apprendre au 21e siècle » aux éditions Kalman-Lévy. Et vous allez nous expliquer pourquoi, en gros, il faut changer de cap et vite, si possible. L'enseignant est désormais moins savant que Google. Alors, quel doit être désormais son rôle ? Doit-il s'inspirer d'un Didier Deschamps qui vient d'être sacré meilleur entraîneur de foot au monde, hein, mais pourquoi pas, hein. Comment réformer des systèmes éducatifs vieux de plusieurs siècles? Pour en discuter avec nous également, Alexia Noyon. Bonjour Alexia.
Bonjour.
Vous êtes directrice du Centre culturel de rencontres européens La Chartreuse de Neuville, qui organise des rencontres vendredi et samedi prochain. Deux jours de colloque sur ce sujet, apprendre au 21e siècle. Une opportunité pour chacun, avec un grand point d'interrogation. La Chartreuse de Neuville se situe dans le Pas-de-Calais, dans le nord de la France. On entendra aussi l'Indienne Shivatal Shaw, 26 ans, qui milite pour plus de représentation des femmes dans les nouvelles technologies en Inde. Elle a été sélectionnée comme championne du changement dans un programme des Nations Unies. Et quant à vous, les voisins, vos réactions, vos questions nous intéressent, surtout si vous êtes enseignant et que le monde de vos élèves change vite, trop vite. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est facile, c'est gratuit, c'est aussi notre contact WhatsApp, 33 1 84 22 71 71.
Pour nous les voisins, c'est comme une seconde famille.
RFI
et la planète se parle.
François Taddeï, vous écrivez dans votre livre « Apprendre au 21e siècle », nos programmes scolaires, nos systèmes éducatifs n'ont à l'heure actuelle pas pris conscience de l'intensité du choc que les progrès de l'intelligence artificielle s'apprêtent à nous faire vivre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est exactement ce choc qui d'ailleurs ne concerne pas que l'intelligence artificielle ?
Effectivement, les nouvelles technologies nous montrent que l'homme a des capacités que la machine est toujours plus capable de rattraper, voire de dépasser largement. C'était le cas depuis longtemps sur la capacité à mémoriser et à calculer. C'est aujourd'hui le cas sur des formes d'intelligence qui sont nécessaires pour, par exemple, analyser une radio ou pour contribuer à conduire une automobile, ou toujours plus de métiers sont déjà impactés par l'arrivée de l'intelligence artificielle et de la robotique. On nous dit que 10 à 47% des métiers vont se voir impactés, voire disparaître.
Le médecin comme l'avocat,
comme toujours plus de métiers, en particulier les métiers qui ont des tâches qu'on peut automatiser. Mais la machine progressant toujours, il va falloir développer chez les humains des capacités que n'ont pas les machines. Et notre système éducatif, qui est quand même, en tout cas, moi j'ai été sélectionné sur ma capacité à mémoriser et à calculer en grande partie.
Vous êtes polytechnicien, il faut le rappeler.
C'est pas complètement inutile, mais si la machine le fait mieux que moi, il faut que je sache développer d'autres capacités. Et donc il faut en particulier, par exemple, apprendre à apprendre. Il faut apprendre à développer sa créativité, sa compassion, sa capacité à coopérer avec les autres, sa capacité à savoir ce qui fait du sens pour soi. Parce qu'une machine, elle peut vous battre aux échecs ou au go ou aux mathématiques, mais elle ne sait même pas pourquoi elle le fait. Alors que ce qui fait du sens dans la vie, c'est justement le sel de cette vie. Et apprendre à développer cette capacité dès le plus jeune âge me semble absolument essentiel.
Les machines vont dépasser le cerveau de l'homme. Et vous le dites, on continue finalement d'enseigner comme il y a 5 siècles, entre 4 murs, avec un professeur qui sait lui-même qu'il ne sait plus rien, et des enfants ou des jeunes qui sont assis en face. Ça, c'est le modèle universel, grosso modo.
C'est le modèle historique en tout cas. Heureusement, il y a des gens qui essayent bien d'autres choses à plein d'endroits et qui se développent toujours plus. Et c'est intéressant, il y avait des poches historiques. Hein. L'école mutuelle, par exemple, dès le 19e siècle, montrait que les jeunes pouvaient très bien apprendre les uns des autres et que l'enseignant pouvait contribuer à organiser le collectif pour que, au mieux les plus avancés puissent accompagner les autres.
Ça avait été inventé quand on avait plus d'une centaine d'élèves dans sa classe. Et puis, on en est vite revenu, l'enseignement mutuel où ce sont les enfants qui apprennent à d'autres enfants parce que l'autorité du maître avait disparu, justement. En tout cas, ça risquait de faire disparaître l'autorité de l'adulte.
Effectivement, au 19e siècle où l'autoritarisme était quelque chose de très important parce qu'on voulait faire descendre les gens à la mine, on voulait qu'ils marchent au son du canon, on voulait qu'ils obéissent, on a imposé des méthodes pédagogiques qui maintenaient cet autoritarisme, alors qu'en fait c'est vrai que cette école mutuelle fonctionnait beaucoup mieux que, en particulier sur les apprentissages fondamentaux. Et donc je pense qu'il faut vraiment s'interroger parce qu'au 21e siècle, là où les machines savent faire toutes les tâches répétitives, il faut que nous, on soit capable de créer. Il faut qu'on soit capable de questionner. Il faut qu'on soit capable de faire des choses individuellement et collectivement qui vont contribuer à rendre cette planète simplement habitable.
Alors, vous argumentez dans votre livre « Apprendre au XXIe siècle » avec une foison d'études internationales et qui ne manque pas d'humour pour certaines. Vous dites, bon, pour apprendre, il faut remettre en cause, désapprendre. On devrait regarder finalement attentivement comment les singes macaques transmettre le savoir.
Oui, il y a une expérience intéressante où on avait essayé de nourrir. Des Japonais avaient nourri des singes avec des pommes de terre d'abord, puis avec du riz. Et à chaque fois, on a vu la même chose. C'est-à-dire que les mâles dominants sont arrivés, ils se sont imposés, ils se sont battus pour avoir ça. Et puis très vite, ils ont mis les patates et le riz dans le sable. Et ça devenait immangeable, donc ils l'ont laissé. Et puis, il y a à chaque fois une petite jeune très maline qui est passée derrière eux et qui a su laver d'abord les patates, puis le riz, et donc séparer le riz du sable, ce qui n'est pas évident. Vos auditeurs, je les laisse imaginer la solution qu'elle a pu mettre en œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est que ses copines jeunes l'ont suivi, puis les jeunes mâles, puis les femelles plus âgées, et les derniers à avoir accepté cette innovation, c'est les mâles dominants.
Alexia Noyon, aux rencontres de la Chartreuse de Neuville qui vont se dérouler cette semaine, vous allez chercher collectivement des réponses sur cette grande question, à quoi doit ressembler l'éducation au XXIe siècle ?
Oui, tout à fait. Alors, à la fois, à quoi doit ressembler l'éducation, et puis aussi, comment peut-on faire pour qu'elle soit ouverte et accessible à tous, et que chacun puisse en bénéficier. Parce que ça, je pense que c'est un enjeu majeur. Effectivement, d'une part, qu'est-ce qu'il faut transmettre comme savoir de base et comme compétence au XXIe siècle, et ça évolue énormément. Et puis derrière, comment faire pour que la plupart des enfants puissent en bénéficier, développer leurs talents, s'insérer dans la société. Et ça, c'est pas évident, d'autant plus qu'on s'aperçoit en fait que, paradoxalement, la France qui a des très gros budget éducatif, qui a une éducation très gratuite, beaucoup, il y a un accès à l'école qui est très important, et bien paradoxalement, on est très mal classé sur l'égalité sociale face à l'éducation pour les enfants. Or, c'est capital pour le monde de demain, si on veut parler de créativité, si on veut parler de travail en réseau, de résolution de problèmes complexes, de questionnement, de tout ce que vient parler oui. François Taddeï, et bien il faut aussi que ce soit ouvert à tous.
Alors c'est ça, il y a beaucoup de questions sur le questionnement, notamment dans votre livre François Taddeï. Vous dites, les enfants naturellement posent beaucoup de questions. Je crois qu'en plus c'est le cas de votre fils hein, qui d'emblée a perturbé l'institutrice.
Oui, sa maîtresse me dit, il est charmant mais il pose des questions. C'est depuis ce jour-là que je questionne le système éducatif effectivement. Mais c'est vrai que le pic de questionnement, quand on l'a mesuré, on l'a observé à 4 ans. Et donc on peut s'interroger, est-il possible d'imaginer un système éducatif dans lequel le pic de questionnement pourrait perdurer beaucoup plus longtemps dans la vie ? Parce qu'effectivement, cette capacité à questionner le monde, si on est dans un monde parfait, on pourrait se permettre de ne pas le questionner. Mais comme on est dans un monde qui a tout un tas de défis écologiques, climatiques, sociaux et économiques, etc., il faut le questionner pour être capable d'inventer de nouvelles solutions. On ne peut pas se contenter de copier-coller les solutions d'hier qui, de toutes les manières, ne marchent plus aujourd'hui.
L'école aujourd'hui, pas seulement en France d'ailleurs, n'est pas capable d'utiliser cette capacité au questionnement des enfants.
Alors, il y a des programmes qui cherchent à dépasser ça. Nous, on a développé un programme qui s'appelle Les Saventuriers, où on essaye de passer du questionnement enfantin à un questionnement scientifique, en étayant ce questionnement naturel, en apportant des méthodologies qui sont différentes d'une discipline à l'autre, mais qui peuvent permettre aux jeunes de s'appuyer sur, non pas les réponses d'hier, mais les méthodologies qui permettent de trouver soi-même les réponses. Mmh.
Vous avez prononcé le mot fatidique, discipline. La France adore les disciplines, les enseignants, les chercheurs adorent les disciplines. Vous, ce que vous aimez, François Taddeï, c'est prendre un sujet et le regarder sous toutes ses facettes. Ça veut dire quoi concrètement ? Et pourquoi c'est une piste pour apprendre autrement au XXIe siècle ?
Mais je pense que la complexité du monde ne connaît pas les disciplines. C'est-à-dire que la nature ne connaît pas les disciplines. Si on veut comprendre un phénomène un tant soit peu complexe...
Les défis environnementaux, par exemple.
Par exemple, ou les défis de santé, on a besoin non seulement de comprendre la médecine, mais aussi de comprendre les changements climatiques, de comprendre les phénomènes sociologiques, de comprendre la pauvreté, les difficultés d'alimentation, etc. Donc on a besoin d'intégrer les disciplines pour arriver à trouver des solutions originale, innovante et pertinente localement et éventuellement qu'on peut partager à d'autres échelles.
Comment ne plus se focaliser sur une discipline et ne pas manquer de voir un gorille qui traverse la pièce ?
Effectivement, il y a une petite vidéo qui tourne sur le web que vos auditeurs peuvent regarder où il y a un gorille qui traverse la pièce et des gens qui jouent au basket et moi je n'ai pas vu le gorille qui passait.
Tellement vous étiez concentré ?
Tellement j'étais concentré.
Sur votre tâche ?
Sur ma tâche, on m'avait dit de compter les ballons et j'étais bête et discipliné, donc j'ai compté les ballons. J'ai réussi à compter les ballons, j'étais très fier de moi, mais je n'ai pas vu le gorille. C'est une allégorie pour moi, si vous voulez. C'est une allégorie de l'aveuglement cognitif dont on est tous victimes, quel que soit son niveau d'études, et même parfois plus fort encore quand on a fait peut-être un peu trop d'études.
Qu'est-ce que c'est que cet aveuglement cognitif exactement ?
Il y a une assez bonne parabole, métaphore de ça, qui est celle de l'éléphant et des six aveugles. Vous avez six aveugles qui touchent chacun un bout d'un éléphant. Vous avez celui qui touche la trompe qui pense que c'est un serpent, celui qui touche la patte qui pense que c'est un tronc d'arbre, celui qui touche le corps qui pense que c'est un mur. Et ils sont en opposition frontale et ils sont tous persuadés d'avoir raison et que les autres ont tort. Et il y a quelqu'un qui a un peu plus de vision globale qui leur explique que, en fait, ils ont tous en partie raison. Mais ce qui est important, c'est qu'ils sachent communiquer pour partager les éléments d'information qu'ils ont sur le monde pour essayer de mieux reconstruire la complexité qui est devant eux. Et donc, je pense qu'on est tous victimes de ce genre de choses parce que nos émotions peuvent nous emporter parce que on a concentré son attention sur une tâche et tout d'un coup on n'a pas vu la réalité du monde parce qu'on a été formaté par une manière de penser qui nous empêche d'observer d'autres phénomènes.
Ou par des algorithmes de Facebook, par exemple, puisque on n'a jamais eu autant de savoir sur la table en libre service, et pourtant vous vous rappelez qu'on est tous enfermés en fonction de nos clics sur Internet dans des bulles informatives.
Exactement. Ce qui est sûr, c'est que les géants de l'Internet, dont Facebook, utilisent nos biais cognitifs pour nous manipuler, pour qu'on reste le plus longtemps possible sur les interfaces qu'ils ont créées. Et donc on a à la fois des biais cognitifs et des biais algorithmiques qui en fait se renforcent. Et au lieu de chercher à créer de l'intelligence collective, ce qu'on observe, c'est des fake news et de la bêtise collective.
Mmh. C'est comme ça qu'on en arrive à de jeunes végétariens qui cassent les vitrines des bouchers ?
C'est peut être plus compliqué que ça, mais effectivement, c'est ce genre de choses qui... la bêtise collective, c'est une émotion irrationnelle où collectivement, on finit par lyncher quelqu'un qui ne pense pas comme nous.
Alors, vous le disiez en début d'émission, vous, par exemple, diplômé d'une très grande école polytechnique, vous avez été, c'est vous qui l'avez dit, hein, recruté pour votre capacité, sélectionné plutôt pour votre capacité à mémoriser et calculer. Aujourd'hui, au XXIe siècle, quelles sont les compétences incontournables que, justement, l'école, pour la plupart du temps, n'est pas capable d'enseigner ?
Ben, je pense que l'école en serait capable, et il y a des enseignants qui le font. Mais parmi ces compétences, il y a l'esprit critique, par exemple. Il y a la capacité à coopérer et faire une critique qui soit une critique constructive, en plus. Parce que la critique négative, on peut éventuellement l'avoir apprise, mais la critique constructive, qui est une critique où on aide l'autre à grandir. On critique l'idée, mais pas la personne. On essaye de... on doit soi-même aussi savoir recevoir la critique des autres. Parce que si on reçoit une critique, est-ce qu'on est attaqué personnellement, auquel cas on se bloque et on ne bouge plus, ou est-ce qu'on comprend qu'effectivement il y a une marge de progression pour nous qui va nous aider à avancer ?
Alors l'esprit critique, la capacité à innover ?
La capacité à innover, la capacité à être créatif, la capacité à coopérer, parce qu'il faut savoir faire ça ensemble, la capacité à communiquer, être capable d'exprimer clairement une idée, être capable de comprendre les idées des autres, même si au départ on ne les trouve pas claires, en demandant de clarifier et de rentrer dans un dialogue. Cette capacité à mobiliser son intelligence individuelle, mais aussi celle du collectif auquel on appartient.
Mmh. Alexia Noyon, est-ce que l'école est consciente, à votre avis, du tsunami qui est derrière la porte de la salle de classe à l'heure actuelle ?
Alors, d'abord, je pense qu'il y a une bonne partie des enseignants qui en sont totalement conscients. Après, ils font partie d'un gros système. Et comme on le sait, les gros systèmes ont du mal à bouger. Or, on est dans un monde qui est très agile. Et on parle souvent aussi qu'il vaut mieux aujourd'hui être un banc de petits poissons qu'une grosse baleine.
Et c'est peut-être que vous alliez dire mammouth.
Dans l'eau. Mais c'est vrai que du coup, peut-être, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs d'Afrique, et peut-être que c'est une chance aussi pour eux, parce que ça va leur permettre de passer directement à un autre système qui est très agile. Et je pense que non, il y a beaucoup d'enseignants qui d'abord le vivent tous les jours, puisqu'ils sont remis en cause par leurs propres élèves. Ensuite, je pense aussi qu'il ne faut pas résumer l'éducation à l'école. Parce que trop souvent, nous, on a fait pas mal d'interventions toute l'année. Et en fait, même quand on choisit des sujets qui n'ont rien à voir, les gens résument l'éducation à l'école. Mais l'école, c'est aussi avant l'école. Par exemple, les pays du Nord, qui sont très bien classés à la fois en termes d'éducation, mais aussi en termes d'égalité sociale, ils investissent beaucoup dans la petite enfance. Et déjà, ils commencent à travailler en Norvège, par exemple, donc à la crèche, avant l'arrivée à 3 ans, il y a le capital mot. Un enfant qui n'a pas le même capital mot déjà démarre à 3 ans à l'école avec beaucoup de difficultés par rapport à un autre. Mais ils travaillent aussi la créativité. Ils travaillent aussi la coopération, donc toutes les compétences dont vient de parler François Taddeï. Dans certains pays, ils l'anticipent déjà bien en avant. Il travaille aussi beaucoup l'adaptabilité. Donc il y a aussi les parents.
En fonction des problèmes qui se présentent à l'enfant.
En fonction des problèmes qui se présentent à l'enfant. Par exemple l'Estonie, qui est pourtant, on ne pense pas forcément à l'Estonie en matière éducative.
Les trois pays baltes, très connectés.
Voilà, très connectés, à la fois très connectés et ayant développé des systèmes éducatifs qui s'adaptent beaucoup à l'enfant. Finalement c'est normal, on voit bien que les enfants sont différents, qu'ils ont des intelligences multiples. Et d'ailleurs pour répondre aux enjeux complexes, je pense qu'on va avoir besoin de ces intelligences multiples pour coopérer, pour trouver des solutions. Et bien en phase d'intelligence multiple, il faut des pédagogies multiples. Il n'y a pas forcément une pédagogie qui va fonctionner avec tout le monde. Et c'est cette adaptabilité qu'a mis en place l'Estonie, par exemple.
Alors, les enseignants partout dans le monde aujourd'hui, ils se rendent compte, François Taddeï, que leurs élèves, pour la première fois, en fait, on a un choc de génération, mais ce n'est pas un choc de génération comme on a toujours eu. C'est que réellement, là, la nouvelle génération, elle n'a plus rien à voir avec la précédente, ou en tout cas en deux générations, non ?
Oui, tout à fait. Les nouvelles technologies changent complètement la donne, parce que les jeunes sont connectés et ils ont accès à au minimum de l'information. Comment est-ce qu'ils passent de l'information à la connaissance? Comment ils sont capables de la critiquer, de ne pas se faire manipuler? Ça, c'est des choses qui n'ont rien d'évident pour eux. Et donc, je pense que le rôle de l'enseignant est plus important que jamais. Mais il faut éventuellement changer de posture. C'est-à-dire qu'on n'est plus le seul détenteur du savoir, ça c'est clair, aujourd'hui. Par contre, on a des connaissances sur les dynamiques de groupe, sur l'esprit critique, sur la capacité, sur ce que c'est que la connaissance, comment est-ce qu'on l'acquiert, comment est-ce qu'on peut la transmettre, comment on peut la vérifier.
C'est très très compliqué ce que vous nous décrivez comme métier là.
Je pense que c'est très intéressant. C'est aussi le métier du journaliste, par certains côtés. Il faut savoir comment est-ce qu'on peut vérifier une information. Mais donc l'éducation aux médias, par exemple, fait partie des choses qu'il faut savoir maîtriser pour un enseignant et évidemment pour un élève également.
Vous écrivez, l'enseignant doit apprendre à dire « je ne sais pas », à mener l'enquête avec ses élèves. Est-ce que c'est une approche qui nécessite forcément de grands moyens financiers ?
Non, je pense que c'est avant tout un état d'esprit. Un Socrate a fait ça sans vrai moyen, sans technologie. Il était le maître du questionnement. Maria Montessori faisait ça avec les enfants les plus défavorisés, fin fond de l'Italie. On peut le faire à toute époque. Et sans grand moyen, c'est d'abord un état d'esprit. Hein, Socrate était le plus sage de tous les Grecs parce qu'il savait qu'il ne savait pas. Donc admettre qu'on ne sait pas, mais qu'on va chercher ensemble la solution et qu'on va utiliser des méthodes qui vont nous aider à trouver des solutions et qui vont nous aider à vérifier les bouts de solutions que l'on va trouver, je pense que c'est extrêmement important.
Didier Deschamps vient d'être sacré meilleur entraîneur de foot. Il pourrait inspirer les enseignants ou c'est juste une plaisanterie ?
Je pense que le métier de coach, qui est celui de Didier Deschamps, est un métier où on sait animer une équipe. Et on sait travailler les complémentarités. Et quelle équipe, en l'occurrence. Mais on sait travailler les complémentarités. Il y a des personnalités très différentes. Il faut savoir les faire travailler ensemble. Il faut leur donner un objectif commun. Et il faut... Donc, tout ça, je pense que ça peut fonctionner. Donc, effectivement, on peut s'inspirer. Ce n'est pas qu'il faut transposer tel quel. Mais il y a certainement des sources d'inspiration à aller chercher dans la capacité à mobiliser un collectif.
Qu'est-ce que c'est l'effet Pygmalion ?
C'est la capacité à inspirer assez fondamentalement. Et effectivement, il a été montré que si les enseignants sont persuadés que leurs élèves n'ont pas de capacité, alors ils échoueront. Par contre, si on leur dit qu'ils ont des petits génies en face d'eux, alors ils sauront réussir.
Et donc inconsciemment.
Inconsciemment. On avait fait ça à l'aveugle. Et c'est une expérience qui a été reproduite un certain nombre de fois. Et donc, il faut se dire que les enfants ont des capacités. Il faut croire en l'éducabilité, c'est-à-dire la capacité à éduquer tout enfant. Hélène Keller, elle était sourde, muette et aveugle. On a cru en son éducabilité. Elle a fait des discours absolument merveilleux où elle dit « Être aveugle, ça n'est rien par rapport à manquer de vision ».
Vous restez avec nous, bien sûr, François Tadei, Alexia Noyon et bien sûr les voisins et les voisines. Si vous souhaitez réagir, poser des questions à François Tadei, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on donne la parole à une jeune indienne qui milite pour l'accès des femmes au numérique en Inde.
Tout le monde rêve d'un ailleurs solaire, tout le monde rêve d'un ailleurs solaire, tout le monde rêve d'un ailleurs solaire, tout le monde en rêve, tout le monde en rêve, tout le monde rêve d'un ailleurs solaire, tout le monde rêve d'un ailleurs solaire, tout le monde rêve d'un ailleurs solaire, tout le monde en rêve, tout le monde en rêve, tout le monde rêve d'un ailleurs solaire. Un éclat, une étincelle, à midi, à minuit, une place au soleil. Pour donner un sens à tout ça, à, au bout de la terre ou en bas de chez toi.
Naya chez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI, ailleurs solaire. Nous, c'est surtout ailleurs sur la planète apprendre au 21e siècle. Pourquoi pas, grâce aux jeux vidéo, c'est le pari de Shivatal Shaw, jeune indienne de 26 ans, née à Bombay. Elle vit depuis 4 ans en Angleterre. Elle s'est formée en autodidacte à l'informatique pour travailler notamment à l'élaboration d'un jeu vidéo pas comme les autres. Son objectif, plus de femmes codeuses à travers le monde. Charlie Dupiot l'a rencontrée à Bruxelles à l'occasion des Journées européennes du développement.
My passion for getting more girls in science starts from back in India when I was 15.
Mon envie d'attirer plus de filles vers les sciences est née quand je vivais encore en Inde, quand j'avais 15 ans. J'aimais vraiment étudier la physique et la biologie, mais à l'école, on a voulu me décourager de poursuivre des études supérieures dans les sciences, car mes enseignants ne pensaient pas que j'en étais capable, que j'avais le potentiel. Et mes parents, parce qu'ils n'avaient jamais rencontré de scientifique auparavant, ne savaient pas en quoi consistait le travail d'un scientifique, alors eux voulaient plutôt que je travaille dans une banque. C'est en quittant l'Inde et en m'installant en Angleterre pour finir mes études que j'ai réalisé que j'avais les capacités pour travailler dans cette industrie tech. J'ai alors commencé à organiser des conférences publiques auxquelles j'ai invité des femmes scientifiques à participer pour qu'elles parlent de leurs recherches au grand public et aussi pour briser le stéréotype qui veut que Marie Curie soit la seule scientifique femme que les gens connaissent. Un peu plus tard, j'ai réalisé un documentaire sur les femmes et les technologies. J'ai interviewé des femmes qui travaillent dans les nouvelles technologies.
Vous êtes partie à la rencontre de combien de femmes ?
J'ai choisi 7 femmes en tout, basées à Londres. L'une, par exemple, travaillait pour Facebook, une autre pour IBM, une entreprise d'informatique. Les femmes de mon documentaire venaient de partout, de Pologne, d'Inde, de France. Il y avait aussi une femme originaire du Nigeria. Je les ai interrogées sur les difficultés auxquelles elles ont dû faire face et je leur ai demandé les conseils qu'elles pouvaient donner aux jeunes filles. L'idée, c'était d'en faire des modèles, des exemples. Il y a un rapport de recherche publié récemment par Microsoft qui s'intitule « Craquer les inégalités en code ». C'est une étude réalisée avec l'UNESCO. Selon leurs chiffres, les filles représentent seulement 35% de tous les étudiants engagés dans les disciplines qu'on appelle STEM en anglais, c'est-à-dire de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Voilà. Et puis j'ai commencé à travailler avec une équipe de femmes informaticiennes. Nous concevons un jeu vidéo, c'est maintenant mon travail à temps plein. Nous voulons enseigner le code aux enfants et nous ciblons en particulier les filles dès l'âge de 8 ans.
Alors là, vous avez un ordinateur. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu ce logiciel, en quoi il consiste ?
We've been inspired by Mario to create a game where the character goes up and down. So it's called Erase All Kittens.
Nous nous sommes inspirés du Mario Bros pour créer un personnage qui avance de gauche à droite et va de bas en haut. Le jeu s'appelle Éliminer tous les chatons. Ça s'appelle comme ça car dans le jeu, comme les chatons ont envahi Internet, tous les autres animaux mignons sont mécontents. Alors ils se rassemblent pour former une corporation diabolique connue sous le nom de Éliminer tous les chatons. L'idée du jeu, c'est qu'ils veulent tous les détruire. Mais vous, en tant que joueur et joueuse, vous devez sauver ces chatons dans cet univers fantastique en codant votre chemin à travers le jeu.
Donc là, votre petit personnage, qui est un chat, doit sauter. Donc il doit sauter en fait sur des rochers.
So you use up and down arrow keys.
Vous utilisez les flèches du haut et du bas sur votre clavier. Et là, vous voyez, ce sont les chatons que vous sauvez au fur et à mesure. Là, il y a le bouton « Edit ». C'est ici que vous devez coder avec une syntaxe HTML. Et là, on veut aider le chaton à passer de l'autre côté. Alors, on écrit simplement la syntaxe HTML nécessaire. Elle nous est conseillée à l'écran. Et hop, un pont est créé, on a sauvé le chaton. C'est comme ça qu'on avance.
Donc on apprend à coder en fait pour que le personnage puisse continuer son chemin dans le jeu. Et où est-ce qu'il est distribué, ce logiciel ?
C'est sur Internet. Si vous allez sur le site erasealkittens.com, supprimez tous les chatons. Ce jeu est utilisé dans une centaine de pays. Nous comptons déjà 130 000 joueurs, dont 55% sont des filles. Cette année, nous travaillons sur une version plus longue qui dure non pas une heure, mais trois heures. Et nous allons ajouter d'autres langues de programmation informatique, CSS et JavaScript, en plus du langage HTML que nous proposons déjà d'apprendre. L'idée, c'est qu'après avoir joué à ce jeu, les enfants pourront utiliser les compétences acquises pour créer leur propre site internet.
En quoi cette pédagogie est spécifique pour sensibiliser notamment les femmes ?
Parce que c'est fait d'une façon qui plaît aux filles. La plupart des outils de code actuels ne sont pas conçus pour les attirer. Mais en mettant en scène des chatons, nous avons imaginé un jeu qui peut plaire à la fois aux filles et aux garçons. Nous avons rendu cet apprentissage du code amusant.
Mais on pourrait dire que c'est un peu cliché aussi d'associer les filles à des animaux, des chatons.
There's no Barbie dolls in this, there's no butterflies, there's no...
Non, parce qu'il n'y a pas de poupées. Il n'y a pas de papillons, il n'y a pas la couleur rose. Garçons et filles aiment les chatons. Ce sont des personnages neutres. Et puis, il s'agit de leur apprendre à coder. De nombreuses filles âgées de 9 à 12 ans pensent que coder serait plus pour les garçons ou que cela serait trop compliqué pour elles. Mais ce n'est pas vrai. Ada Lovelace a réalisé le tout premier programme informatique au 19e siècle et c'était une femme. Je veux briser le découragement.
C'est Shivatal Show indienne. François Tadei, vous publiez Apprendre au 21e siècle. Vous êtes biologiste. Alexia Noyon, vous êtes directrice du Centre culturel de rencontres européens, la Chartreuse de Neuville, qui organise deux jours de colloque à la fin de la semaine sur cette grande question, comment apprendre au 21e siècle. Est-ce que, François Tadei, par exemple, vos enfants apprennent à coder déjà, puisque ce sont des enfants d'un scientifique?
En fait, ils ont effectivement... comme beaucoup d'enfants, en fait, appris beaucoup de choses en dehors de l'école, sur Internet en particulier. Il y a des petits jeux pour apprendre à coder comme celui qu'on entend, auquel ils ont eu accès et qui, effectivement, leur a appris quelques rudiments. Il y a même la possibilité de... un truc qui s'appelle Coding Game, dans lequel on peut progresser assez vite dans ce genre de choses. Et effectivement, les jeunes d'aujourd'hui, ça peut être leur enseignant qui leur recommande, en l'occurrence, et pas seulement les parents. Donc, je pense qu'il y a toujours plus de possibilités qui s'ouvrent à ces jeunes. Et effectivement, ils savent chercher eux-mêmes des manières de se former. Le nombre de ceux qui s'intéressent à la science, comme cette jeune femme, qui vont voir des youtubeurs scientifiques pour connaître l'actualité scientifique est vraiment impressionnant.
La question des écrans et de la place du numérique dans l'école, c'est vraiment une question qui fait débat aujourd'hui, parce qu'on est arrivé un peu à la croisée des chemins, Alexia Noyon.
Oui, alors c'est toujours la question, c'est est-ce que du coup il faut remplacer tous les cahiers que par des écrans ou pas? C'est peut-être pas comme ça qu'il faut la poser finalement. C'est plutôt savoir à quel moment ça peut être utile. Est-ce que c'est pour l'enseignant? Est-ce que c'est pour les élèves? Finalement, les écrans, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Tout comme le codage, c'est pas une fin en soi, c'est un nouveau langage. Mais en même temps, je pense que oui, les enfants baignent là-dedans, donc ils apprennent très naturellement. Nous allons recevoir donc à la Chartreuse vendredi matin Sougata Mitra, qui a quand même fait une expérience en Inde absolument extraordinaire, hein, en plaçant dans un village où personne n'avait jamais vu d'ordinateur, une tente avec un ordinateur. Et il est revenu quelques mois plus tard et les enfants, par eux-mêmes, savaient se débrouiller, avaient trouvé les solutions. Donc on voit bien que les enfants, naturellement, par leur créativité, tout à l'heure, François Tadi disait que le pic, c'était à 4 ans, le questionnement. Et bien, donc, du coup, à 4 ans, ils se posent des tonnes de questions. Et finalement, si on leur livre des matériaux pour chercher, ils trouvent. Et aujourd'hui, évidemment, dans les matériaux qu'on a à notre portée, ce sont les ordinateurs. Maintenant, après, ce qui est peut-être plus important que savoir s'il faut mettre ou non des écrans, c'est pourquoi faire. Et donc, interroger aussi les enfants sur le sens de ce qu'ils font, sur pourquoi ils développent quelque chose. Ça me semble essentiel. Donc, on parle un petit peu de tout ce qui est le cœur, l'âme, l'éthique. Enfin, vers quoi voilà. Et je pense que le rôle de l'enseignant peut aussi être là-dessus. D'une part, de vérifier que ce qu'ils font est vrai ou les informations qu'ils vont chercher. Donc, la notion de vérifier les informations. Mais aussi, la notion de les guider vers pourquoi tu fais ça, quelles vont être les conséquences de ce que tu fais, etc. Et ça me semble extrêmement important et c'est un rôle, à mon avis, passionnant pour les enseignants.
Où en est justement, François Tadéhil, la recherche en éducation dans un pays comme la France sur toutes ces grandes questions?
Malheureusement, c'est le parent pauvre de la recherche. Moi, je viens de la recherche biomédicale. On a, alors que le budget de la santé et le budget de l'éducation sont à peu près équivalents. L'importance pour les familles et pour tout le monde, c'est à peu près équivalent. Et néanmoins, on dépense 30 fois plus de recherche sur la santé qu'on ne le fait sur l'éducation. Et donc, tant qu'on n'aura pas mis les moyens et mobilisé beaucoup de disciplines, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de disciplines qui peuvent contribuer à illustrer ce débat. Il y a des disciplines traditionnelles comme les sciences de l'éducation, où il y a un certain nombre de résultats qui sont très intéressants. Et puis, il y a des nouvelles disciplines comme les sciences cognitives, mais aussi comme toutes celles qui viennent du numérique, où on peut faire ce qu'on appelle les learning analytics, c'est-à-dire avoir beaucoup de données sur les apprentissages pour s'en servir, pour recommander et s'adapter aux besoins de chaque
enfant. Mais pourquoi à chaque fois qu'on tente d'introduire, par exemple, les neurosciences, l'apport des neurosciences dans la façon d'apprendre ou le rôle des écrans, pourquoi à chaque fois ça tourne à l'empoignade quand c'est l'éducation nationale qui s'en saisit ou le monde de l'éducation, la famille, les parents, les enseignants, ça tourne à l'empoignade sur les neurosciences? Ça a été la bataille des sociologues et des psychanalystes contre les neuroscientifiques. Sur le numérique, c'est le pour ou contre les écrans. Comment se fait-il? C'est un particularisme français?
Je pense qu'il y a effectivement des débats très forts ici, mais assez naturellement, on voudrait que le système éducatif ressemble à ce qu'on a connu. Il y a une forme de syndrome de Stockholm où on s'est habitué à un système et on voudrait le voir se reproduire. Si en plus le système a dit qu'on était le meilleur, alors on veut vraiment croire que ce système est judicieux. Donc c'est assez compliqué par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on est très attaché à quelque chose qu'on a connu dans l'enfance. Mais en même temps, on a besoin de regards extérieurs. On a besoin d'une approche scientifique. Et fondamentalement, on a besoin de former tous les acteurs, les parents, mais aussi les enseignants et même l'ensemble des cadres du système éducatif. Malheureusement, c'est un système dans lequel on n'investit pas dans la formation continue, dans le développement professionnel. Déjà, on met très peu de moyens dans la formation initiale, mais on met quasiment rien dans la formation continue et le développement professionnel. Et donc, ce qu'il faut, c'est mobiliser l'intelligence collective des enseignants. Et donc, les pays qui s'en sortent mieux que le nôtre, c'est typiquement des pays où les enseignants apprennent à coopérer.
Singapour?
C'est le cas de Singapour, c'est le cas de la Finlande, c'est le cas du Canada. C'est des pays qui ont des systèmes très différents, mais ils ont ça en commun. Ils s'appuient sur la recherche et ils ont des pédagogues-chercheurs, c'est-à-dire des enseignants qui, face à une difficulté d'un enfant, cherchent des solutions et sont accompagnés dans leur recherche de solutions, individuellement et collectivement.
Vous citez le cas de Singapour, où deux tiers des établissements scolaires hébergent des collectifs de recherche. Alors déjà, collectifs de recherche en France, ça se passe à l'université en général, qui permettent aux enseignants de confronter leurs méthodes et de résoudre collectivement des problèmes. En France, tout le monde est en compétition avec tout le monde, souvent.
Oui, alors la question c'est, est-ce qu'on veut un système éducatif qui soit basé sur la compétition, sur la capacité à mémoriser les solutions d'hier, ou est-ce qu'on veut, et ça avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je pense que c'est un système qui va être toujours plus obsolète, ou est-ce qu'on invente un système dans lequel on encourage les jeunes et les enseignants à coopérer pour relever les défis d'aujourd'hui et préparer demain ?
Alors, si on part du principe que l'école est trop lente à réformer, parallèlement, vous l'avez dit tous les deux, il se passe plein de choses dans la vie de l'enfant, dans la vie des enseignants, des adultes en général et des citoyens et des usagers. Par exemple, les Fab Labs. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab ?
Fab Lab, ça veut dire fabrication de laboratoire. Donc, c'est des lieux de fabrication dans lesquels on va ensemble faire des choses qu'on ne saurait pas faire seul. En particulier parce qu'il y a quelques machines comme des imprimantes 3D, des systèmes de découpe laser. Mais fondamentalement, il y a un collectif qui, dès qu'il y en a un qui a trouvé une solution, il la documente et il la partage pour que d'autres puissent l'apprendre.
Qu'est-ce qu'on peut fabriquer, par exemple, dans un Fab Lab ?
Ah ben, on peut fabriquer des objets qui, par exemple, si nous manque une pièce, parce qu'on a une machine qui s'est cassée, on peut réimprimer la pièce qui nous manque et réparer la machine dont on a besoin. Mais on peut aussi créer une nouvelle machine à partir d'un nombre de nouvelles pièces que l'on assemble. Et cette capacité à faire ensemble, c'est, on a des collectifs apprenants. Et en plus, tous les Fab Labs du monde sont mis en réseau par Internet. Le premier était au MIT, maintenant il y en a des centaines, des milliers à travers le monde. Et aujourd'hui, ces Fab Labs sont des lieux de réinvention du savoir-faire et du faire savoir en même temps.
Mais réservé à une élite qui possède du savoir scientifique, technique, technologique ?
Ces Fab Labs, par définition, sont ce qu'on appelle des tiers-lieux ouverts à tous. Et donc, il y a des moments dans les Fab Labs qui sont dédiés à recevoir des gens de la communauté qui ne connaissent pas encore ce que c'est qu'un Fab Lab, une imprimante 3D, qui vont l'apprendre. Et une fois qu'ils l'auront appris, ils pourront le transmettre à d'autres. Et donc, c'est ça que les collectifs apprenants, c'est systématiquement, on apprend les uns des autres et on progresse tous ensemble.
Comment on emmène, par exemple, des enfants des quartiers précaires dans des Fab Labs, concrètement ?
Là, alors nous, je parle plus pour la campagne. Hein. Nous, on est à la campagne, dans les territoires ruraux, parce qu'on parle souvent enfants précaires égale banlieue, mais enfants précaires, c'est aussi à la campagne. Et par exemple, nous, il y a un Fab Lab de Calais, mobile, qui se déplace. Donc nous, on l'a accueilli déjà plusieurs fois à la Chartreuse de Neuville. Et ensuite, c'est pas compliqué. Hein, à partir du moment où, soit via les écoles, soit tout simplement via aussi les centres de loisirs, vous faites venir des enfants dans un Fab Lab, après, il n'y a plus rien à faire. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui les attire. Parce que on pense que les enfants sont aujourd'hui attirés que par les écrans, mais ils sont aussi attirés par le faire. Surtout quand ça combine en fait des nouvelles technologies. Je pense que c'est vraiment important de mélanger la réalité avec le fictif et de ne pas opposer les deux.
Ça peut être aussi une manière de contourner la difficulté scolaire, la spirale de l'échec par exemple ?
Oui, alors je vais peut-être vous parler d'une formation qu'on a lancée là à la Chartreuse. Alors c'est plus à destination de jeunes adultes mais en situation d'illettrisme où aujourd'hui les formations ressemblent à l'école, donc des gens qui ont connu en général de l'échec. Et là, nous, on a mis en place une formation où on leur demande de cartographier les graffitis du grand cloître de la Chartreuse. Donc on est sur du patrimoine, sur du vraiment réel. Mais ensuite, derrière, ils font des moulages et puis ils reproduisent en imprimante 3D donc différents objets. Et puis ils cartographient, donc ils vont aussi sur des savoirs numériques, ils font des légendes, ils vont sur Google. Donc en fait, ils travaillent du savoir numérique, la lecture, l'écriture, les maths, en étant utiles et en s'appuyant aussi sur des technologies, soit imprimantes 3D, soit aussi vidéo, puisqu'en fait, à la fin, ils font une soirée de lancement et ils présentent leur travail en vidéo. Donc c'est aussi des supports qui peuvent être beaucoup plus ludiques et en même temps beaucoup plus concrets. Et je pense qu'il faut savoir associer et mélanger les supports et c'est beaucoup plus motivant. On n'a quasiment pas de décrochage dans ces formations qu'on a lancées.
Alors, parce qu'on y trouve du sens.
Oui, c'est ça. On y trouve du sens. Mais alors du coup, quel serait, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'université, mais quel serait le schéma idéal ? On a beaucoup parlé de l'école, on a vu qu'elle était lente à réformer, mais quel serait le schéma idéal des universités aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut du collectif horizontal ? Ce qui n'est pas le cas dans de nombreuses universités.
Je pense qu'on est en train de discuter avec l'UNESCO et un nombre d'universités au niveau international et au niveau français sur essayer de créer des diplômes liés aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Hein, vous savez, les Nations Unies ont défini 17 grandes priorités planétaires. L'éducation est le numéro 4, le 3 c'est la santé, il y a l'alimentation, l'eau, l'énergie, la biodiversité, l'emploi et j'en passe. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes comprennent très vite que ces problèmes globaux ont une correspondance avec les défis locaux qu'ils connaissent. Et si on leur dit qu'au lieu d'être des passifs consommateurs de savoir, ils peuvent devenir des acteurs de changement, en comprenant ces défis et en essayant de se retrousser les manches et d'être créatif pour penser des solutions, et puis les documenter, les partager, et se voir reconnaître leurs apprentissages et leurs compétences dans ce genre de process, alors ils peuvent progresser beaucoup plus vite.
Vous nous appelez pour dialoguer avec nos invités, si vous le souhaitez, sur Apprendre au XXIe siècle. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez aussi poster vos messages, c'est le même numéro pour WhatsApp.
7 milliards de voisins.
On est plus semblables que différents.
Il faut tenir compte des voisins.
7 milliards, pour moi, c'est totalement vertigineux. 7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète. 7 milliards de frères et de sœurs.
Je vous lis une question d'un voisin au Sénégal, Dembaka, qui poste ce message du Sénégal. Souvent, le nouveau bachelier est complètement désorienté une fois à l'université. Son nouvel environnement est complètement différent de celui du lycée. De ce point de vue, certains ont d'énormes difficultés à s'adapter, puisque vous parliez de l'adaptabilité qui va être l'une des grandes compétences nécessaires au XXIe siècle. À cet effet, j'aimerais savoir ce qu'il faut vraiment faire en termes d'innovation pour que la transition du lycée à l'université puisse se faire sans difficulté. François Tadi, vous n'êtes pas non plus monsieur solution internationale, mais vous avez des idées sur toutes ces questions.
Eh ben, je pense que, par exemple, il peut y avoir du transfert de connaissances et de compétences avec des aînés qui se sont adaptés à l'université 1, 2 ou 3 ans plus tôt. Et donc, quand on organise du tutorat et du mentorat entre élèves, généralement, ça se passe beaucoup mieux. Mais on peut aller probablement plus loin. Vous connaissez peut-être le voyage du héros. Le mythe du héros, c'est ce qui a inspiré George Lucas pour penser la guerre des étoiles. Se dire qu'en fait, quand on sort de chez soi et que l'on rentre dans un autre monde, on va avoir plein d'autres défis. Il va falloir se faire une bande d'amis pour relever ces défis et dépasser, y compris ses propres peurs. Et ben, ce mythe-là, je pense qu'on peut plus facilement presque gamifier et transformer en jeu l'arrivée à l'université en se disant qu'il est normal de connaître ces difficultés. Mais que ce qui compte, c'est de trouver des ressources en soi et dans le collectif pour être capable de les dépasser.
Donc de partager ses difficultés sans en avoir peur avec les autres pour qu'ils comprennent mieux ce qui les attend, notamment par exemple.
Exactement, se dire qu'en fait on n'est pas le seul à vivre ces difficultés. C'est le cas de tous les bacheliers, donc peut-être que si on sait se serrer les coudes, apprendre les uns des autres, on va beaucoup mieux réussir.
Vous auriez une autre proposition
Moi, je suis absolument convaincue de ça. Et quand on parlait aussi de donner du sens, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes n'ont plus envie d'être dans un monde que de compétition. Et ils ont envie d'être dans un monde de coopération. Et toutes ces différentes pédagogies qui permettent d'accompagner l'autre, je pense, sont vraiment source d'enrichissement à la fois pour la personne, de sens, mais aussi pour le collectif. Et je voulais revenir juste un petit peu avant sur... il y a une formation aux Pays-Bas, enfin mon fils le fait, qui s'appelle New Global Challenges, dans une université de Leiden, où il travaille justement... c'est une formation passionnante, puisqu'ils sont là pour relever des défis. Et ensuite, ils ont des cours communs, mais ils ont aussi des cours suivants. Si, par exemple, s'ils travaillent sur le développement durable, eh bien, il va y avoir des biologistes qui vont être en cours avec des gens dans le droit et puis après en cours avec d'autres. Et après, ils se spécialisent. Donc, celui qui est en droit va avoir des troncs communs sur les enjeux qu'il travaille et ensuite, ils vont se spécialiser. Et ils travaillent énormément en pédagogie inversée. Donc, en fait, ils travaillent avant tout en... Il y a un questionnement qui est fait. Ils travaillent ensemble par groupe.
C'est ça,
ils présentent.
On travaille avant le cours,
voilà.
Avant que le professeur n'ait donné
sa
bonne parole.
La notation, en fait, est faite d'une manière différente. C'est-à-dire que la personne qui a fait un paper, une présentation, d'abord l'envoie à un de ses pairs. Qui lui corrige,
c'est
un autre jeune, qui lui corrige et qui lui donne des conseils sur comment il doit mieux rédiger. Et ensuite, il envoie au professeur. Et le professeur est finalement là pour coacher, ajuster, mais il n'y a pas du tout cette rivalité. Et je trouve ça assez passionnant parce que finalement aussi, les problèmes vont être résolus par une transdisciplinarité. Mais en même temps, une transdisciplinarité avec des étudiants qui se connaissent et qui sont réunis pour relever un défi ensemble et qui a du sens. C'est une très belle formation et je pense qu'il rejoint ce que...
C'est ce que vous prenez, oui, le décloisonnement des disciplines.
Le décloisonnement des disciplines est de partir de ce questionnement, de ce sens, de ce qui nous touche. Hein. Les Japonais, par exemple, définissent la quête de sens comme ce qu'ils appellent l'ikigai. Et cet ikigai, c'est ce qui est l'intersection entre ce que l'on aime faire, les compétences que l'on a ou que l'on peut développer, ce dont le monde a besoin et aujourd'hui les Nations Unies nous donnent ces 17 grands objectifs. Et les ressources qu'on peut trouver près de chez soi, y compris un emploi, mais aussi trouver un collectif avec qui travailler pour avancer et apprendre et faire progresser la quête dans laquelle on a décidé de se lancer.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, parmi les compétences du 21e siècle, l'adaptabilité, la capacité à s'interroger, à décloisonner les disciplines, à travailler collectivement. Et puis, on n'a pas encore vraiment parlé de l'éthique. Dans un monde qui est désormais gouverné par les géants d'Internet, par le profit commercial, vous estimez que l'urgence, c'est de former à l'éthique, vous n'êtes pas le seul, et à l'intérêt général. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard ?
Alors c'est en partie trop tard pour ceux qui sont sortis du système sans avoir pris en cause en compte ces choses-là, et c'est dommage, mais au moins je pense que chez tous les humains il y a une fibre éthique, et donc on peut essayer de la renforcer. Et mais c'est vrai que si le système éducatif la mettait au cœur, je pense que ça éviterait que on sorte d'une école d'ingénieur en ayant moins d'éthique qu'en y entrant, ou que on sorte.
C'est le cas à l'heure actuelle.
C'est le cas aujourd'hui, malheureusement.
Sincèrement.
Ça a été montré. On sort d'une business school avec moins le sens de l'intérêt général que quand on y est entré.
Attendez, ça a été mesuré.
Ça a été mesuré, oui. Il y a moins de compassion quand on sort des études de médecine que quand on y est entré. Donc on voit bien qu'il y a besoin de repenser la formation à l'université pour l'ensemble de ces métiers qui sont des métiers au cœur de notre société. Et donc et les gens sont en souffrance parce qu'on n'oublie pas la compassion quand on est médecin de gaieté de cœur. C'est en partie parce qu'on a été mis dans un système dans lequel c'était la seule manière dont on pouvait survivre à court terme.
Donc on a une armée de jeunes qui ne trouvent pas de sens aux emplois pour lesquels ils ont été formés, en gros.
Exactement, et d'où à la fois ce qu'on appelle du burn-out et du bore-out, c'est-à-dire un épuisement émotionnel, soit parce qu'on fait des choses complètement inutiles, soit parce qu'on fait des choses dans lesquelles on s'ennuie profondément.
Les Nations Unies et la Banque mondiale vont s'associer aux géants de l'Internet, là, Amazon, Google, Microsoft, pour prévenir les famines dans le monde. Ça va être annoncé là, demain en se servant de leur base de données pour analyser les signaux précoces sur les risques de famine, pour savoir combien on a de personnes qui risquent d'être touchées, où est-ce qu'elles se trouvent, etc. Avec entre autres de la géolocalisation, mais pas que, ça sera beaucoup plus technologique, je présume. Ça serait quoi ? Ça serait enfin, on prendrait la bonne vague ?
Je pense que la technologie peut contribuer à résoudre une partie des problèmes, mais c'est un mélange de technologie et surtout d'intelligence humaine. Et donc de capacité à développer non seulement l'intelligence artificielle, dans le genre de projet que vous décrivez, mais aussi l'intelligence individuelle et collective. Et je pense qu'il va falloir, à l'avenir, faire coévoluer ces formes d'intelligence entre celle qui est la nôtre, et il va falloir que chacun d'entre nous sache s'appuyer sur les machines quand c'est opportun, et sache critiquer les machines lorsqu'elles ont des dérives.
C'est ce qu'on apprend à faire au CRI, le centre de recherche interdisciplinaire que vous avez fondé.
Oui, on essaie de former les étudiants à dépasser les boîtes noires que sont nos cerveaux, que sont les technologies, à essayer de mieux comprendre comment tout ça fonctionne, pour être capable d'inventer de nouvelles manières de mobiliser l'intelligence collective pour la mettre au service des grands défis planétaires.
Et vous avez des diplômes universitaires hein, dans ce centre complètement atypique.
Alors, il y a des
situé à Paris, mais aussi à l'international.
On travaille avec l'Université de Paris Descartes et de Paris Diderot. On a des diplômes de licence, de master, de doctorat, où on essaye de former les étudiants qui veulent comprendre comment relever les défis qu'on vient d'énoncer. Ouais. En montant des projets. Et puis on travaille en Chine, on travaille avec Harvard, on travaille avec des universités sur à peu près tous les continents.
Alors vous avez des matières un peu particulières, hein. C'est pas tout à fait ce à quoi on s'attend. Il y a des intitulés de disciplines.
Il y a un des diplômes qu'on a créé, s'appelle Créer, justement pour inviter les jeunes à créer quelque chose qui leur tient à cœur, un projet qui a du sens pour eux et pour les autres. Et donc, comment est-ce qu'on trouve son ikigai ? Ça fait partie des choses qu'on essaye de développer pour permettre à nos étudiants de faire des choses qui ont du sens et qui auront de l'impact positif sur la planète.
Alors, à la lumière de tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'une société apprenante, une société mondiale apprenante ?
Une société apprenante ou une planète apprenante,
oui, une
c'est
planète,
un collectif dans lequel, dès que quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre va pouvoir apprendre la même chose. Dès que quelqu'un a innové, quelqu'un d'autre va pouvoir innover plus facilement. Pourquoi ? Parce qu'on documente et on partage. Et on pouvait le faire autour du feu depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui, grâce au numérique, on peut partager à toutes les échelles. Grâce à cette émission, par exemple, tout d'un coup, des millions de gens peuvent écouter et apprendre les uns des autres.
Voilà, et vous lire aussi, François Taddeï, Apprendre au 21e siècle, c'est publié chez Kalman Lévy, Fête de la science, 6 et 7 octobre, évidemment, vous serez là. Alexia Noyon, directrice du Centre culturel de rencontres européens de la Chartreuse de Neuville. Les rencontres, c'est vendredi et samedi prochain, et bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas la chance d'y participer, à retrouver sur Internet, je présume.
Oui, dès l'année prochaine, on va avoir une capitalisation de l'ensemble des intervenants.
Chartreuse de Neuville, sur le site internet. Merci à vous tous, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubras, qu'on se retrouve demain, on s'intéressera à l'histoire des sexualités de l'Antiquité à nos jours, histoire de déconstruire quelques idées reçues. À demain.